Bien, bonjour à tous. Donc je voudrais d'abord remercier l'IFE pour cette invitation à présenter et à débattre de mes réflexions sur une thématique à fort enjeu pour l'éducation scientifique en France et dans le monde et pour la didactique des disciplines. Je remercie donc particulièrement Marilyn Coquidet et Yves Matoron pour les échanges portant sur l'orientation des contenus de ma présentation. Et puis donc l'ensemble de l'Institut pour l'organisation et la convivialité de mon accueil à Lyon. I say thanks to John Elliott for his presentation on the teachers as researchers. Et je vais maintenant parler français. Because my English is poor. Yes. Donc je suis rattaché au laboratoire EFTS de Toulouse, donc éducation, formation, travail, savoir, donc qui est une UMR qui est fondée donc sur les universités et l'ENFA, ce qui est un statut assez particulier, je pense, en France. Je vais être embêté sans arrêt avec ce mot de passe. Alors, la présentation donc que je vous propose est organisée de manière assez classique. Je vais d'abord parler de la contextualisation, c'est-à-dire des en-deçà des démarches d'investigation. Et puis donc, je présenterai un cadre problématisant, une méthodologie et des résultats. Et c'est sur les résultats, bien entendu, que j'insisterai plus particulièrement. Alors, les en-deçà des démarches d'investigation, c'est en gros donc d'où viennent ces démarches d'investigation et qu'est-ce qui a fait que ces démarches donc ont été mises en place de manière institutionnelle, notamment en France, dans les années 2000. Dans les années 2004, donc 2005, 2006, 2007, se sont donc réunies des organisations au niveau européen qui ont fait un point donc sur les besoins scientifiques dans le monde et sur l'éducation scientifique. Il a été donc relevé. OK. Yes. Donc je reprends. Voilà, donc il a été relevé donc l'importance d'insérer les jeunes dans un monde scientifique et technologique. Et également donc en termes de constat, il s'agissait de contrer les attitudes négatives et la désaffection des jeunes pour les études scientifiques. D'une manière générale, donc, les décideurs ou les intervenants dans ces différents congrès internationaux ont souhaité donc mettre en place un développement de l'enseignement scientifique avec un apprentissage de la complexité, de la pensée critique, de l'innovation, de l'initiative, des partenariats et de la responsabilité. En même temps et depuis donc de nombreuses années, du côté donc des chercheurs en didactique notamment, on avait déjà mis en œuvre ce qu'on appelait donc des inquiry approaches, donc des approches d'investigation. Et donc ces approches d'investigation semblaient pouvoir correspondre à ce qui était souhaité par les institutionnels. Les points de vue donc, des chercheurs sur la portée potentielle des investigations étaient assez larges. Il s'agissait donc d'inclure dans l'enseignement scientifique, des compréhensions des principes de la science, de la nature de l'investigation scientifique et des applications de la connaissance scientifique aux objectifs sociétaux et personnels. Bon, il était relevé depuis très longtemps que l'investigation pouvait avoir des effets positifs pour les élèves, ce que rappelaient donc les chercheurs américaines Miner, Levy et Century en 2009. Donc finalement, on se retrouve à l'orée des années 2005, on va dire, hein, avec deux problématiques sociétales, une de nature économique liée donc à l'adaptation au monde, à la compétitivité et à l'insertion sociale des jeunes, et d'un autre côté, donc, l'envie ou la nécessité d'améliorer les apprentissages scientifiques et l'attitude des jeunes par rapport aux sciences. À ces deux problématiques de nature sociétale, il a été décidé donc de répondre de manière unique en faisant une place importante à l'inquiry et à ses diverses déclinaisons, dont les démarches d'investigation pour l'enseignement scientifique, DIES, en France. Le rapport donc d'Irocar en 2007 donne une définition de ce qu'est l'inquiry, de ce que sont les démarches d'investigation, sachant qu'il y a de très nombreuses définitions sur l'investigation. Je donne celle-ci donc d'abord donc parce qu'elle sert de référence à l'heure actuelle dans les recherches en didactique, et elle sert aussi donc de référence pour les rapports institutionnels. Donc une investigation est un processus intentionnel de diagnostic des problèmes, de critique des expériences, de distinction entre des alternatives possibles, de planification de recherche d'hypothèses, d'informations, de construction de modèles, de débats avec des pairs et de formulation d'arguments cohérents. Dans leurs travaux, les élèves communiquent à propos de thématiques scientifiques, évaluent des textes scientifiques, mènent donc des recherches, posent des questions à propos des politiques scientifiques et technologiques, posent et critiquent des arguments, etc. Donc on s'aperçoit que dans cette définition, on se retrouve avec des finalités extrêmement nombreuses et donc une démarche qui va forcément porter une certaine complexité. Et il faut savoir également que lorsque ces démarches d'investigation ont été mises en place, ben il existait, notamment en France, un avant des démarches d'investigation, avec des enseignements coutumiers, souvent éloignés donc, de ce que préconisaient a priori ces démarches d'investigation, une certaine remise en question donc, de cet enseignement coutumier, des méthodes de découverte et de la stricte autonomie des élèves. Les démarches d'investigation, telles qu'elles étaient posées, notamment donc en France, questionnaient les situations traditionnelles, faisant appel surtout à la mémorisation, à la déduction et à l'utilisation de procédures techniques. Et puis donc interrogeaient également, comme on le verra tout à l'heure, la question des formations et des cloisonnements disciplinaires. Si je rapproche donc la mise en œuvre des démarches d'investigation dans une histoire de l'enseignement scientifique, alors je vais être très rapide, on s'aperçoit que les démarches d'investigation qui ont été donc préconisées dans les années 2000, à partir des années 2004, disons donc en France, font suite donc à beaucoup de réformes, à beaucoup de mouvements de l'enseignement scientifique en France, mais du côté donc du monde anglo-saxon et notamment des États-Unis, les démarches d'investigation ou l'inquiry datent de très longtemps. Donc on peut déjà donc en 1910 à mieux parler de Nature Study, qui avait un rapport avec les démarches d'investigation. L'inquiry elle-même donc, a été mise en place dans les années 50. Dewey, donc, on en a parlé tout à l'heure avec John, parlait déjà d'inquiry. Et donc du côté du monde anglo-saxon, c'est une histoire assez longue autour de l'investigation qui existe. Donc en 2004, 2005, etc., ont été mises en place en France les démarches d'investigation au collège, texte donc de 2005 pour une mise en pratique en 2006, et ont été donc suivi ensuite la mise en œuvre de situations-problèmes au lycée à partir donc de 2010. Le glissement de démarches d'investigation à situation-problème ne me paraît pas anodin, on pourra en reparler tout à l'heure. Du côté donc du monde anglo-saxon, il y a différentes acceptions autour de l'inquiry. Donc on parle par exemple de l'inquiry-based science education, de l'inquiry-based teaching, de l'inquiry-based instruction, de l'inquiry-based learning, du problem-based learning. Donc beaucoup d'acceptions autour de ce que l'on peut rattacher aux démarches d'investigation. Je vais donc maintenant vous présenter comment la recherche investit les curriculums liés donc aux démarches d'investigation, et en particulier donc on va aborder dans cette problématisation la question des références, la question de l'évaluation que je développerai dans un troisième temps. Donc comment, d'un point de vue didactique, les curriculums sont-ils analysés? Quels sont les objectifs de ces analyses pour les recherches en didactique? Et comment un chercheur peut-il prendre une posture de recherche critique et politique? Alors, si l'on essaie donc d'opérationnaliser ces questions et de voir donc ce qu'elles donnent dans les recherches actuelles, On peut les décliner de la manière suivante. Quelles sont les références à considérer pour l'action en classe? Sur quelles valeurs s'appuyer pour construire les investigations? Comment articuler la mise en œuvre des démarches avec la mise en œuvre d'autres demandes institutionnelles, notamment l'évaluation? Et c'est un point extrêmement important que je développerai. Quelles sont les solutions à adopter ou qui sont adoptées en contexte ordinaire et à quel prix? Et finalement, donc, quelles sont les portées, les limites des démarches fondées sur l'investigation? L'investigation, questionner l'investigation, faire des recherches sur l'investigation, c'est donc finalement questionner d'un point de vue didactique des problématiques à la fois épistémologiques, de gestion de l'étude et de pratique, de contexte. On en a parlé un petit peu tout à l'heure donc avec John Elliott. Donc d'un point de vue méthodologique, dans le cadre de mon exposé aujourd'hui, je vais prendre appui sur un certain nombre de synthèses de publications didactiques relatives aux démarches fondées sur l'investigation. Donc essentiellement, j'ai travaillé donc à partir de deux HDR qui portent sur les démarches d'investigation, dont celle de Jean-Marie Boislevin et la mienne. J'ai également eu le plaisir de diriger un ouvrage donc sur démarches d'investigation et didactique. Donc je vais m'appuyer sur cet ouvrage-là, notamment les travaux de Michel D'Angelo, Nathalie Magneron et Marilyne Coquidé et de Jean-Luc Dorier, donc qui ont travaillé sur les aspects curriculaires des démarches d'investigation. Et puis donc je m'appuie également sur un certain nombre d'articles qui font référence et que l'on trouve dans les revues de didactique et des sciences notamment. D'un point de vue de la littérature anglo-saxonne, je me suis appuyé essentiellement sur le Handbook of Research on Science Education, qui est paru donc en 2007 sous la direction de Abel et Lederman. Donc, les résultats, investigation, évaluation et pratique. Ce que l'on peut dire d'une manière générale sur les démarches d'investigation dans le monde, c'est, comme le disait donc Machietto en 2010, ici même, c'est qu'il n'y a pas de réel consensus dans le monde et dans le monde de la recherche sur ce que sont ou sur ce que devraient être précisément les démarches d'investigation. Ce que l'on repère, donc, ce sont des acceptions qui constituent un miroir de diverses représentations des démarches d'investigation. C'est le terme qu'employait Machietto donc, en 2010. Ces différentes acceptions sont valables de manière égale, aussi bien dans le monde de la recherche que dans le monde des institutions elles-mêmes et dans les définitions par les institutions de ce que sont les démarches d'investigation. Donc, les traductions institutionnelles traduisent donc des conceptions de nature complète portant sur la science, l'enseignement, l'apprentissage et des éléments de nature sociale, culturelle et politique. Je vais maintenant décrire de manière très schématique, donc ceux qui sont très pointus sur la chose excuseront, la schématisation que je vais présenter, mais je crois qu'elle est nécessaire pour bien montrer différents aspects donc de lecture de ce que peuvent être les démarches d'investigation. Donc je vais m'intéresser plus précisément à ce que sont les démarches d'investigation en France et ce que l'on peut mettre sous l'étiquette Inquiry-Based Science Education aux USA. Alors d'abord, il faut savoir que les démarches d'investigation sont présentées comme étant uniques, puisque donc elles sont présentes dans les textes officiels en France sous la forme d'un curriculum valable pour tout le monde, quel que soit l'endroit où l'on se trouve en France. L'IBSE, donc, aux États-Unis, est présente de manière générale au niveau des États-Unis, mais ensuite, cette IBSE peut être déclinée suivant moult façons dans ce que l'on appelle donc aux États-Unis des standards, qui donc font des choses parfois assez différentes. Les points communs entre les démarches d'investigation et les standards donc reliés à l'IBSE sont que, en classe de sciences, les élèves ont des problèmes à résoudre et réalisent des investigations. Et ensuite, que les élèves doivent être effectivement actifs et placés dans un environnement favorisant les interactions. Donc ils doivent participer, c'est le sens de actif, à la construction des savoirs. Il y a ensuite de nombreuses différences entre les démarches d'investigation et l'IBSE, même si, comme je le disais, donc, il faut moduler les remarques que je vais faire dans la mesure où l'IBSE est décliné différemment suivant les standards, suivant les régions, suivant les États dans lesquels donc, elle est mise en place. En France, l'origine du problème est essentiellement donc, une question d'ordre scientifique liée donc, à un concept, à une théorie, à un modèle. Aux États-Unis, l'origine du problème peut être celle-ci, mais est également et souvent un problème pratique, réel, éventuellement social et très ouvert. Le statut de la solution du problème en France est lié donc à l'origine du problème, c'est-à-dire c'est une réflexion au mieux sur la manière dont le référent empirique et le registre du modèle sont articulés. Donc c'est une réflexion sur la théorie, l'expérience, l'idée de vérité et l'idée bachelardienne du savoir scientifique en rupture donc avec le savoir commun. Aux États-Unis, il s'agit donc, en suivant Dewey, de mettre la pensée à l'épreuve de l'action, de développer des capacités à penser et à agir. Et ce qui est donc à l'arrivée de la démarche, c'est une assertion, plutôt qu'une vérité, qui est vérifiée dans le cadre d'un problème spécifique, celui qui a été posé au départ. Autre différence entre les démarches d'investigation et l'IBSE, dans les démarches d'investigation, c'est la question des savoirs, des contenus donc, scientifiques, qui pilote donc la démarche elle-même, et ce pilotage se fait sous le contrôle de l'enseignant. La démarche est relativement limitée d'un point de vue épistémologique. C'est essentiellement donc de l'hypothético-déductif, d'où l'idée de situation-problème dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'idée que c'est l'expérience qui finalement donne les savoirs à apprendre, c'est l'expérience qui sert à comprendre. Du côté donc, de l'IBSE, on a donc une tâche à résoudre qui peut être pratique ou intellectuelle, et les démarches d'un point de vue épistémologique ne sont pas strictement liées à l'hypothético-déductif, ce sont des démarches avec une épistémologie relativement ouverte, et souvent donc, dans les standards sont expressément donc, entendus, l'idée que la démarche utilisée doit aboutir à des réflexions sur la manière dont la science fonctionne, sur ce que sont des concepts et des processus scientifiques, et sur ce qu'on appelle donc « nature of science », c'est-à-dire la nature de la science, qu'est-ce que c'est qui fait que quelque chose est de nature scientifique. Il convient de faire deux remarques. D'abord, je reprendrai donc la formulation de Marilyn Coquidé. Avec les démarches d'investigation en France, on n'apprend pas aux élèves à faire de la science, à appréhender la nature de la science. Hein. C'est l'idée donc, qui était présentée dans ma diapositive précédente. On leur apprend les résultats de la science. Donc c'est bien le savoir qui pilote, à l'opposé de ce qu'exigerait donc, une authentique démarche scientifique. Une deuxième remarque que je ferai, d'un point de vue épistémologique aussi, c'est que souvent, que ce soit en France, aux États-Unis ou même dans d'autres pays, en Belgique et en Suisse par exemple, l'investigation peut être liée à la résolution d'une énigme de type enquête policière, ce qui n'est pas sans poser des questions sur le statut des concepts scientifiques, c'est-à-dire est-on en science dans une perspective de découverte ou de construction, de création de concepts scientifiques. Je vais maintenant développer à propos du contexte institutionnel français, donc pour dire ce que sont les démarches d'investigation. D'abord, comme je l'indique dans le titre de cette diapositive, on ne parle pas de les démarches d'investigation, mais on parle de la démarche d'investigation. Et la démarche d'investigation est posée dans les textes officiels de 2005 et suivants comme étant une méthode d'enseignement. On dit que la démarche d'investigation présente des analogies entre les disciplines scientifiques, donc on regroupe toutes les disciplines dites scientifiques sous une même étiquette, les mathématiques, sciences et vie de la Terre, la physique-chimie et la technologie. Et il s'agit donc pour toutes ces disciplines de suivre une démarche, qui est une démarche donc de résolution de problèmes, avec formulation d'hypothèses ou de conjectures, etc., etc., et des différences, notamment au niveau des modes de validation des savoirs. Cette démarche d'investigation vise à construire des connaissances, des compétences méthodologiques et des savoir-faire techniques, et dans les textes officiels, donc la démarche est présentée suivant un canevas en 7 moments essentiels, et dans les textes, on dit que l'ordre ne constitue pas une trame à adopter de manière linéaire. Alors, je vais rapidement passer sur les 7 moments de la démarche d'investigation. Donc, le premier moment, c'est le choix d'une situation-problème, et on retrouve bien donc ici l'idée d'une situation-problème posée par le professeur. Cette situation-problème, les élèves se l'approprient, donc en quelque sorte construisent une problématisation de la question de départ, guidée par l'enseignant. Les élèves ensuite formulent des conjectures, des hypothèses, des protocoles, font ce qui constitue réellement donc, le cœur de l'investigation, et ensuite donc, communiquent, échangent, confrontent leurs résultats. Les connaissances donc, qui ont été construites lors de l'investigation et lors de la confrontation, lors des débats, est structurée, donc, est transformée, on dirait, donc, en didactique en France, donc, est transformée en savoir, hein, la différence connaissance-savoir dont Yves Matteron vous avait parlé l'année dernière, je pense. Hein. Oui. Cat knowledge is knowledge. Et les élèves, donc, avec l'enseignant, mettent en évidence les nouveaux donc, éléments de savoir. Et confronte ceci avec les savoirs précédents de manière à montrer que la science forme une certaine unité. Le dernier moment clé de la démarche d'investigation, c'est l'opérationnalisation. Alors, il faut savoir que cette démarche d'investigation en France a été mise en œuvre en même temps que étaient mis en œuvre de nouveaux outils pour l'évaluation. Ces outils pour l'évaluation sont liés à ce que l'on appelle donc le socle, les paliers, le livret de l'élève, le livret de compétences. Et on insiste donc dans cet ensemble de documents liés à l'évaluation sur compétences et connaissances. Ce qui peut poser problème quand on sait que les compétences comprennent elles-mêmes des connaissances. Bon, c'est un autre problème sur lequel on discutera éventuellement un peu plus tard. Il est dit également, donc, sur le site du ministère, qu'il faut établir des liens entre les activités en classe et l'évaluation en fournissant aux deux la même matrice dans laquelle les compétences sont décomposées en connaissances, capacités et attitudes. Alors, cette concomitance des démarches d'investigation et des démarches donc, d'évaluation actuelles n'est pas sans poser des problèmes que relève par exemple Miner aux États-Unis également, c'est que l'évaluation standardisée peut limiter la richesse de l'environnement éducatif lié à la démarche. Et c'est également donc ce que note d'une autre façon Dell'Angelo dans l'article auquel je faisais référence tout à l'heure, en disant il y a comme un grand écart dans de nombreux textes pédagogiques à propos de l'initiation scientifique. D'un côté, son intérêt est justifié par l'importance et la valeur formatrice de la démarche et des attitudes scientifiques conduisant à prôner des activités d'investigation. Et d'un autre côté, on veut, pour des raisons d'évaluation, définir une liste de compétences à atteindre aux différents paliers. Je rapprocherai ceci de ce que disait Martinan en 1994 déjà. Donc je cite, « Il est urgent de prendre conscience de la contradiction explosive entre ces deux points de vue, l'intérêt de la démarche scientifique, l'évaluation et le contrôle, lorsqu'ils sont appliqués sans précaution au niveau de l'initiation scientifique et technologique. Voyons maintenant donc du côté des États-Unis comment donc sont déclinés les aspects liés aux démarches d'investigation et aux évaluations. Donc j'expliquais tout à l'heure qu'aux États-Unis donc il existait des standards nationaux et des déclinaisons de ces standards donc par État. Je vais faire référence ici au texte donc issu du National Science Education Standards, donc qui date de 1996. Il faut savoir que dans ces standards, c'est un dispositif complet qui est donné, qui comprend donc les standards eux-mêmes, les tests, et qui correspondent donc à des évaluations, les résultats donc des tests, des évaluations au niveau des établissements et des États sont publiés. Et ces standards donc, sont appelés dans les textes standards minimaux. Ils déterminent ce que les élèves doivent savoir, les compétences à acquérir pour tous. Et il est écrit que donc il s'agit d'amener les élèves à l'excellence. Alors on peut en fignolant un petit peu se demander ce que viennent faire donc le minimum et l'excellence en même temps. Est-ce que le minimum et l'excellence, est-ce que l'excellence peut être minimale? Point d'interrogation. Bien. Les standards sont déclinés suivant différents aspects que vous avez donc affichés ici sur la diapositive. Donc ils concernent l'enseignement, ils concernent les contenus, ils concernent les méthodes, les programmes, les systèmes. Donc c'est une déclinaison extrêmement large, extrêmement pointue, extrêmement détaillée, qui sont donc dans des documents extrêmement importants en volume et en contenu, qui sont donnés donc aux établissements dans les différents États. Alors, un exemple de déclinaison de ces standards en ce qui concerne l'investigation dans l'État de Washington. Donc, on a différents niveaux qui correspondent, si vous voulez, aux âges donc chez nos élèves, sachant que donc le grade 9-12, c'est pour les plus petits, le grade 4-5, c'est pour les plus grands. Donc où l'on s'aperçoit que l'idée d'investigation est déclinée de manière assez précise et donc les standards développent ce qui doit être fait à différents niveaux relativement à l'investigation. Et ces investigations donc sont perçues dès le départ, dans une idée extrêmement, complexe par rapport à ce qui peut être fait en France, dans la mesure où, par exemple, donc, pour le grade 9-12, il s'agit dès le départ de comprendre des phénomènes naturels. Donc on est dans une perspective qui est tout autre de celle que l'on peut trouver dans les programmes français. D'un point de vue de l'évaluation, il y a, et je vais le décliner aussi par rapport aux standards de Washington, trois types d'évaluation qui sont fondées à la fois sur des documents, donc il faut analyser, des QCM et des barèmes, donc qui sont associés aux réponses qui peuvent être fournies donc, par les élèves, en fonction donc, des questions et des documents. Et ces évaluations sont rapportées à ce qui est appelé « inquiry », elle-même, c'est-à-dire donc des méthodes pour répondre à une question scientifique du type quelle variable est contrôlée dans le document, quelle variable est mesurée, quelles conclusions peut-on tirer, toujours à partir d'informations fournies dans les documents. L'idée de systems, donc l'évaluation, a trait donc à la mise en relation de différents éléments dans la pensée scientifique. Et enfin, donc, application, qui relève du processus de conception technologique pour résoudre les problèmes pratiques et de connaissances afin de répondre à des problèmes de la vie de tous les jours ou des problèmes de société. Donc, on voit bien, et on retrouve ce que je disais tout à l'heure dans les finalités des IBSE, l'idée que, donc, la démarche d'investigation dans l'IBSE doit aboutir à la résolution de questions pratiques ou de questions de la vie de tous les jours. En France et aux États-Unis, on s'interroge, enfin, les chercheurs s'interrogent sur la portée donc épistémologique des démarches d'investigation, et on trouve une espèce de course à l'authenticité et à la légitimité scientifique des démarches d'investigation. Cette course à l'authenticité et à la légitimité scientifique, on la retrouve par exemple dans la définition que propose Cariou, qui est ici, de critères d'authenticité. Donc Cariou propose 10 critères permettant d'évaluer d'un point de vue épistémologique la portée des démarches d'investigation. On trouve également donc cette recherche d'une légitimité scientifique dans la démarche d'investigation, dans les démarches d'investigation, dans la construction de listes de critères relatifs donc aux activités des élèves et des enseignants, et on trouve donc cette construction de listes de critères, oui, aussi bien dans la littérature française que dans la littérature anglo-saxonne. Vous avez ici un exemple tiré donc d'un texte américain que je vous ai donné tout à l'heure. Cette course, si j'ose dire, donc aux références épistémologiques scientifiques, est également donc mise en œuvre dans les recherches. Ces recherches donc se poursuivent suivant différentes thématiques. Par exemple, je vous ai donné ici des exemples, je pense, plutôt en littérature française, donc sur l'articulation des théories et des faits, sur la modélisation, la distinction et l'articulation entre objet, événement, concept, théorie, et l'évolution des conceptions et de la modélisation, sur l'idée de problématisation, sur la place de l'histoire des sciences et de l'épistémologie dans les démarches d'investigation, sur l'idée de visiter des lieux scientifiques avec des classes pour faire participer les classes et les élèves des classes à des expériences réellement scientifiques, des expériences de scientifiques, ou la classe vue comme un laboratoire. C'est ce qui se passe donc en Italie, selon Macchietto. Macchietto ? D'accord. Alors, la question, une des questions donc, qui se pose à partir de là, c'est: faut-il formaliser et apprendre les démarches, ou apprendre des démarches? On pourra aussi débattre ce que sont des démarches éventuellement tout à l'heure. Alors, s'il n'y a pas cette formalisation, selon Millard, l'idée, c'est de comprendre l'investigation scientifique en classe comme réellement ce qu'est la science. Et comme donc ça ne peut pas être la même chose, le défi est évidemment extrêmement important si l'on veut faire apprendre aux élèves ce qu'est une démarche scientifique, une démarche de scientifique. Alors, formaliser l'organisation des activités scientifiques, ça peut correspondre à l'idée de définir une démarche scientifique comme étant un contenu scientifique à apprendre. Autrement dit, donc, il convient de porter intérêt à des questions qui se rapportent aux démarches de scientifiques. Ça implique, dans n'importe quel cas, de faire à minima un retour sur le déroulement et sur les articulations des différents moments des démarches au long des séances. Du côté de la gestion de l'étude, on trouve de très nombreux travaux depuis très longtemps sur les démarches d'investigation ou les démarches apparentées, en relation avec ce que l'on peut appeler d'une manière très large les constructivismes ou les socioconstructivismes. Je vous ai donné ici donc quelques références qui ont trait notamment au rôle des conceptions et à la prise en compte et de ces conceptions dans les démarches d'investigation, avec donc les rôles attribués à l'enseignant et à l'élève, avec le rôle des interactions langagières et des activités de lidage pour faire évoluer ces conceptions des élèves. Donc on trouve ce type de travaux dans la littérature française et dans la littérature anglo-saxonne dans tous les pays. Je vais rajouter ici quelques idées donc actuelles en France, qui relèvent donc de propositions de didacticiens dans différentes disciplines pour essayer de construire, soit avec les enseignants, soit dans le monde des chercheurs, entre eux dans un premier temps, des démarches d'investigation compte tenu des contraintes de l'enseignement à l'heure actuelle, par exemple. Alors, un certain nombre de chercheurs, pardon, en didactique des sciences, donc physique et SVT, essaient de, face à la complexité des démarches d'investigation, de construire ce qu'ils appellent donc des mini-situations d'investigation, c'est-à-dire donc on décompose la complexité et on essaie de faire avec. Donc c'est ce que font par exemple Morge, Marlot, Guillot, Liost et Triquet en France, et leur texte donc devrait sortir l'année prochaine. Vous avez ensuite, et ça rejoint peut-être les travaux que présentait John Elliott tout à l'heure, l'idée de travaux innovants avec des collaborations enseignants et chercheurs. C'est ce que font donc Boislevin et ses camarades à Aix-Marseille. Et puis donc Boislevin est en partie à Rennes. Je suppose qu'il va quand même continuer un petit peu ce travail de collaboration enseignant-chercheur. Et il se base donc sur, d'un point de vue de la didactique, sur des travaux de didactique professionnelle. Vous avez ensuite donc des réflexions importantes qui sont menées par Le Baume et son équipe en didactique de la technologie, qui sont des réflexions très intéressantes sur comment lier compétences et curriculum, comment évaluer la complexité. Et vous avez enfin donc... Et on peut le rattacher aussi à cette idée, c'est ce que fait Dorier donc, dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, en mathématiques, les travaux donc, liés autour de Chevalard sur les activités d'études et de recherche, sur les parcours d'études et de recherche, sur les problèmes ouverts, sur les activités de recherche de preuves entre pairs, et pour ce qui concerne Dorier plus précisément, il s'agit donc à l'échelle européenne d'un projet donc PRIMAS qui vise à promouvoir la démarche d'investigation dans les classes de mathématiques à travers l'Europe. Je vais maintenant donc vous présenter rapidement quelques résultats d'analyse de pratique ou d'études de l'action enseignante pour vous montrer donc les obstacles, ce à quoi se heurtent les enseignants dans leur vie de tous les jours, pour mettre en œuvre des démarches d'investigation. Donc je présente deux travaux de recherche, ceux de Michel Granja, qu'il a eu l'occasion de présenter récemment au sein de l'équipe Estime, et ceux que je propose moi-même dans la modélisation pragmatiste de l'action didactique que je mets en œuvre. Alors en ce qui concerne Granja, Granja donc décompose les finalités des démarches d'investigation en différentes thématiques que vous avez affichées ici, questionnement, problème, responsabilité, diversité, argumentation, explicitation. Et son idée est d'analyser les situations de classe qui sont produites en essayant, pour chacun de ces items, d'évaluer la manière dont ces items sont travaillés. Ce dont on se rend compte en regardant donc, le schéma auquel il aboutit, c'est qu'il est absolument impossible de traiter tous les items en même temps dans une séance, et ensuite que les manières dont on traite les différents items dans une séance dépendent des enseignants ou des contextes dans lesquels travaillent ces enseignants. C'est un petit peu le même type de résultat auquel j'aboutis dans mes propres recherches, qui porte donc sur la modélisation pragmatiste de l'action didactique de l'enseignant. Et ce à quoi donc j'aboutis, c'est que ce qu'il se passe en classe est finalement une sorte de compromis entre le savoir des enseignants, d'une manière générale, le savoir scientifique et savoir sur les démarches, le vouloir, c'est-à-dire la reconnaissance de la possibilité, la nécessité de l'action au bon moment, et ensuite leur pouvoir, c'est-à-dire l'idée de se donner les moyens, de s'attribuer les moyens pour l'action. Donc les actions enseignantes en classe sont une espèce de compromis entre ce savoir, ce vouloir et ce pouvoir qui dépend des contextes, notamment de classe. Je vais donc conclure maintenant en présentant ce que j'appelle une discussion, mais qui est en fait, comme vous le verrez, une suite de questions et toujours des questions, parce qu'une recherche se termine finalement toujours par des questions et de nouvelles questions. Ce que l'on peut dire, c'est que, en suivant donc Venturini et Tiberghien, il y a certainement des potentialités en termes d'apprentissage pour les investigations, potentialités liées à la structure, à la cohérence, à la statue, au statut épistémologique du contexte, au fait que certains éléments de curriculum font état d'attente en matière de cognition et de métacognition, et que ce sont des processus qui sont recommandés pour les apprentissages. Mais toujours en suivant ces auteurs, on peut dire que dans les inscriptions curriculaires en France, l'absence notamment de moments de réflexion et de critique sur le processus de recherche lui-même questionne ce que les élèves peuvent bien apprendre de la démarche d'investigation, des démarches scientifiques, notamment quel rôle et quel statut ont ces différentes étapes. Finalement, les questions qui restent actuellement posées pour les didacticiens, mais je crois aussi qu'il faudrait que ces questions soient posées aux institutionnels, qu'est-ce que c'est qui vaut le coup, finalement, dans l'enseignement scientifique? Est-ce que ce sont des contenus ou une démarche, ou les deux? Et est-ce que l'on peut concevoir une démarche comme une méthode, finalement, comme un stéréotype? Rendre les élèves actifs, ok, mais quel est le statut des réponses des élèves, et en particulier quand ces réponses dérangent, ce qui arrive très souvent dans les situations ouvertes? Vous aurez compris, je pense, que un des problèmes principaux auxquels il va falloir réfléchir en tant que didacticien, c'est le statut de l'évaluation. Les démarches d'investigation sont-elles des démarches pour l'enseignement, pour l'apprentissage? Sont-elles des démarches à utiliser ou à apprendre? Peut-on essayer de penser réellement aujourd'hui la démarche d'investigation face aux démarches scientifiques? Comment articuler les démarches d'investigation avec d'autres démarches? Parce qu'il est bien entendu que l'on ne peut pas tout traiter avec uniquement des démarches d'investigation. On peut regretter donc la posture déflationniste minimale des institutions face à la complexité des démarches d'investigation. Et enfin, donc Marilyn en parlait en début de séminaire, quelle générosité et quelle spécificité peut-on voir dans les démarches d'investigation, notamment donc au moment où l'on pose la question de l'enseignement intégré. Je termine donc avec cette dernière diapositive en disant que les démarches d'investigation, finalement, relèvent de l'enseignement et de l'apprentissage d'une complexité et, à ce titre, peuvent être rapprochés d'autres problématiques de la complexité, notamment celles liées aux évaluations, ce qui n'est pas anodin, puisqu'on a vu que le problème des démarches d'investigation dans la relation avec l'évaluation était fondamental. Et l'objectif est bien ici de combler au moins partiellement la déconnexion importante qui existe entre, d'un côté, donc, les résultats de la recherche sur l'éducation et, de l'autre, donc, les politiques et les pratiques d'enseignement. Je vous remercie.